d'être avec vous ce matin. Alors, je suis arrivée à Orléans à l'été 2019 et depuis, j'ai beaucoup entendu parler de l'église de Gauvert. Et enfin, voilà, on peut, avec mon mari et mes filles, être présents avec vous. Alors, c'est vrai que ce n'était pas gagné vu les circonstances, mais voilà, ça a pu se produire et on en est très heureux. Alors, je vous transmets les salutations fraternelles de l'église des Blossières. Et puis, je vous présente mes vœux pour une bonne année et une bonne santé. Alors, on est mi-janvier, donc techniquement, j'ai encore le droit de le faire. Mais peut-être que déjà, depuis le début de l'année, vous avez entendu beaucoup de fois de bonne année, bonne santé. On le voit même écrit dans la rue, dans le journal. On peut peut-être se demander même, bon, après tout, enfin, au fond, qu'est-ce que ça signifie, à quoi ça sert Alors ce matin, je vous propose de réfléchir à cette tradition qu'on a dans la perspective de ce que la Bible pourrait en dire. Bien sûr, il n'y a pas de vœu de la bonne année dans la Bible, mais on y trouve des vœux de bonheur, de prospérité et de santé. Et ce matin, je vous propose de réfléchir à cela à partir de la troisième épître de l'apôtre Jean. Donc on va la lire en entier parce que ça fait que 15 versets. Donc je vais lire 3 Jean, des versets 1 à 15. 3 Jean, verset 1. L'ancien à mon bien cher Gaius que j'aime dans la vérité. Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que tu l'es spirituellement. Je me suis beaucoup réjouie lorsque des frères sont venus de chez toi et m'ont rendu ce témoignage. Tu demeures attaché à la vérité et tu vis selon cette vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants vivent selon la vérité. Cher ami, tu agis avec fidélité dans ce que tu accomplis pour les frères, qui de plus sont des étrangers pour toi. Ils ont rendu témoignage à ton amour devant l'Église. Tu agiras bien si tu pourvois à la suite de leur voyage d'une façon qui plaît à Dieu. En effet, c'est pour proclamer Christ qu'ils sont partis sans rien accepter de la part des non-croyants. Car c'est donc notre devoir, d'accueillir de tels hommes. Ainsi, nous collaborerons à ce qu'ils font pour la vérité. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui veut être le chef parmi eux, ne tient aucun compte de nous. Aussi, quand je viendrai, je rendrai les autres attentifs à sa manière d'agir. Il tient de méchants propos contre nous, et non content de cela, il refuse de recevoir les frères de passage. En plus, ceux qui seraient désireux de les accueillir, il les en empêche et les chasse de l'Église. Cher ami, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui commet le mal ne sait rien de Dieu. Quant à Démétrius, tout le monde n'en dit que du bien, et la vérité elle-même témoigne en sa faveur. Nous lui rendons, nous aussi, un témoignage positif, et tu sais que notre témoignage est vrai. J'aurai bien des choses à t'écrire, mais je ne veux pas les confier à l'encre et à la plume. J'espère te voir bientôt, et alors nous nous entretiendrons de vive voix. Que la paix soit avec toi. Les amis te saluent. Salue nos amis. Chacun personnellement. Alors cette troisième épître de l'apôtre Jean est une lettre à Gaius. Est-ce que ça marche ? Voilà. C'est une lettre à Gaius, un Gaius qui est un chrétien, qui est un ami de Jean et probablement un responsable d'église. Alors Jean lui-même se désigne par le titre d'ancien. C'est probablement comme ça qu'il était connu dans l'Église primitive. Il est à cette époque le seul apôtre encore en vie. Gaius, c'était un nom très courant dans l'Empire romain. Et on ne peut pas établir de rapport certain avec les autres Gaius qui sont mentionnés dans le Nouveau Testament, par exemple dans les Actes et dans les Épîtres de Paul. Alors le contenu de la lettre suggère que Jean écrit à Gaius pour le remercier d'accueillir des enseignants itinérants de l'Évangile. Peut-être que Démétrius était un de ces enseignants et Jean le recommande à Gaius au verset 12. Cependant, il y a un problème. Un autre membre de l'Église, probablement un responsable de cette Église, Diotrephe, sème le trouble en se conduisant avec autoritarisme et en refusant l'hospitalité aux frères de passage. Jean encourage donc Gaius à ne pas se laisser perturber et à persévérer dans sa bonne œuvre. Cette épître est une lettre chaleureuse et Jean souligne son affection pour Gaius à plusieurs reprises. Il l'appelle « mon bien cher Gaius, que j'aime dans la vérité, cher ami ». Et en plus, Jean fait suivre la salutation d'un vœu qui est formulé de façon assez frappante. « Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que tu l'es spirituellement ». Alors, dans les épîtres du Nouveau Testament, en général, l'auteur souhaite à ses destinataires des bénédictions spirituelles, la grâce, la paix, etc. On pourrait donc dire que l'accent est mis sur la santé spirituelle et non sur la santé physique. À l'inverse, dans la littérature épistolaire de l'époque, dans la correspondance usuelle, eh bien, c'était très courant de souhaiter une bonne santé et la prospérité matérielle à son destinataire. Mais ici, sous la plume de Jean, on a une combinaison intéressante des deux. Jean souhaite à Gaius la santé physique à la mesure de sa très bonne santé spirituelle. Alors tout d'abord, c'est un souhait. Jean le formule ainsi, « Je souhaite que tu prospères ». On pourrait dire que c'est un vœu, alors pas au sens religieux, mais simplement le fait qu'on exprime quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, un désir. Alors ça veut dire quoi, souhaiter à l'autre de bonnes choses, comme on le fait au début de l'année? En fait, quand on fait cela, si on ne fait pas ça juste par politesse, mais qu'on est vraiment sincère, eh bien on exprime qu'on considère cette autre personne avec des intentions favorables, qu'on lui veut du bien, et même qu'on se réjouit de son bonheur, de sa réussite. Alors le souhait n'a aucune force en lui-même, il n'y a pas une puissance magique qui serait à l'œuvre pour réaliser ce qu'on souhaite. C'est simplement une marque qu'on est bien disposé vis-à-vis de l'autre. Et on pourrait dire déjà que ce n'est pas si mal s'il y a de la bienveillance dans les rapports humains. Mais sous la plume de Jean, et pour nous aussi chrétiens, les souhaits ne se limitent pas à cette dimension horizontale de bonnes intentions envers les autres. Dans le Nouveau Testament, le verbe « souhaiter » peut être utilisé pour signifier « prier ». On exprime un souhait à Dieu en faveur de quelqu'un. Jean veut du bien à Gaius, mais aussi, par implication, il en appelle à Dieu pour faire du bien à Gaius. Le souhait de Jean n'a rien de magique en lui-même, mais Jean s'en remet dans l'intercession à la puissance de Dieu qui agit. Alors c'est le privilège de chaque chrétien, c'est aussi notre privilège de transformer ces souhaits horizontaux en souhaits verticaux, c'est-à-dire en intercession qui invite Dieu à agir. Les vœux de bonheur qu'on formule ne sont pas déconnectés du fait qu'on s'attend à Dieu, car c'est lui qui agit et c'est auprès de lui que se trouve le bonheur. Alors nous voulons remettre ceux qui nous sont proches au Seigneur. On veut leur souhaiter du bonheur, du bien, tout en sachant que le bien est un don du Seigneur. L'apôtre Jacques nous l'a rappelé en disant « Tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut du Père des Lumières ». Alors voyons maintenant le contenu de ce souhait. Jean souhaite à Gaius de prospérer à tous égards. La formule littérale, c'est « que tu aies bonne route, que tu fasses bon voyage ». Et en effet, c'est une image de celui qui réussit. Il arrive au but visé, sans encombre, sans obstacle sur sa route. Et Jean précise les choses. Que tu sois en aussi bonne santé physique que tu l'es spirituellement. Dans une autre traduction plus littérale, il est écrit « que tu sois en bonne santé à l'image de ton âme ». Alors ça ne signifie pas forcément que Gaius souffrait d'un problème de santé particulier. Par contre, sa bonne santé spirituelle est un fait qui est clairement exposé dans la suite de la lettre. Sa santé spirituelle est tellement bonne que Jean en fait le standard, la mesure de la prospérité matérielle et de la santé physique qu'il souhaite à Gaius. Alors c'est une formule qui suscite quelques réflexions. Tout d'abord, l'apôtre Jean écrit dans un contexte où l'ascétisme était une tentation pour les chrétiens, soit parce qu'ils étaient dans la lignée de la philosophie platonicienne qui méprisait le corps, ou au contraire parce qu'ils étaient en réaction contre d'autres philosophies grecques, par exemple de philosophie épicurienne, qui faisaient du corps le centre de tout bonheur. Mais les chrétiens sont appelés à une vision saine et équilibrée de leur être. La santé spirituelle et la santé physique sont toutes deux importantes. Aujourd'hui, on est dans une société qui voue quasiment un culte à l'apparence et au corps, et on peut être pris dans des remous semblables. La tentation de céder à la mentalité ambiante, ou au contraire, de la refuser par certaines formes d'ascétisme ou de mépris du corps. Dans le service chrétien, certains ont sacrifié leur santé pour faire plus de services, plus de bonnes œuvres. Alors c'est vrai que pour servir, il faut bien souvent sortir de sa zone de confort. Il faut parfois faire des sacrifices même. Mais l'idée du service chrétien que la Bible nous donne n'est pas qu'il faut nier ses besoins physiques et en particulier son besoin de repos. Robert Murray McShane, peut-être que vous en avez entendu parler, c'était un pasteur écossais qui a mené son ministère de façon très intensive. C'était un ministère admirable qui était nourri par un zèle extraordinaire pour Dieu, mais qui l'a laissé dans un état d'épuisement général. Il est mort à 29 ans et on rapporte que McShane aurait dit sur son lit de mort « Dieu m'avait donné un message à délivrer et un cheval. Hélas, j'ai tué le cheval et je ne peux plus délivrer le message. » Alors je ne sais pas si ce sont ses véritables paroles, mais cette idée mérite la réflexion. On a besoin d'un cheval pour délivrer le message. Et nous voulons prendre soin de ce cheval, de notre santé physique, sachant que c'est elle aussi qui nous permet de servir le Seigneur et de proclamer son message. Et on voit que c'est aussi le cas pour Gaius. Il peut se montrer hospitalier et généreux envers les enseignants itinérants dans la mesure où il en a les moyens matériels et physiques. Deuxième remarque, c'est que si la santé physique et la santé spirituelle sont toutes deux importantes, elles ne sont pas corrélées. C'est une autre observation qu'on peut faire à partir du souhait de Jean à Gaius. Ce n'est pas parce qu'on a une bonne santé spirituelle qu'automatiquement on a une bonne santé physique. Sinon, Jean ne l'aurait pas souhaité comme ça à Gaius. Certaines âmes prospères glorifient Dieu dans la misère matérielle et dans la maladie. Ce n'est pas l'évangile de la prospérité. Les bénédictions matérielles ne sont pas un indicateur de la santé spirituelle. Et inversement, la maladie ou la précarité matérielle ne sont pas systématiquement des signes de quelques péchés particuliers. Et puis, troisième remarque, le vœu de Jean, le vœu que Jean formule pour Gaius nous interpelle. Jean souhaite à son ami une santé physique à la mesure de sa santé spirituelle. Qui est prêt à se souhaiter la même chose ? Imaginons un instant, si notre santé physique était le reflet de notre santé spirituelle, en quelle forme serions-nous ? Est-ce qu'on serait en forme olympique ? Ou peut-être moins que ça ? Est-ce que nos deux bras et nos deux jambes fonctionneraient ? Est-ce qu'on pourrait marcher ? Au fond, est-ce qu'on aurait intérêt à ce que notre santé physique soit alignée sur notre santé spirituelle ? Alors Gaius était en bonne santé spirituelle. Il était en super forme, spirituellement parlant, et je voudrais relever quelques caractéristiques de sa bonne santé spirituelle. Tout d'abord, on pourrait le décrire comme un chrétien équilibré. Et on voit ça au verset 3 à 6. Gaius demeure attaché à la vérité. Il adhère à la doctrine, il conserve fidèlement l'enseignement des apôtres, mais aussi il vit selon la vérité. Sa façon de vivre est façonnée par cet enseignement. Il le met en pratique, il fait le bien. Et en particulier, il exerce l'hospitalité envers les enseignants itinérants de l'Évangile. Il les accueille chez lui et Jean l'encourage à subvenir à leurs besoins pour leur permettre de continuer leur voyage. Chez Gaius, l'amour et la vérité marchent ensemble. La fidélité doctrinale va de pair avec la mise en pratique. Gaius est en bonne santé spirituelle parce qu'il est équilibré. Et puis, il est aussi actif. Il est un collaborateur actif dans l'œuvre de Dieu. Par son hospitalité, Gaius contribue à la proclamation de l'Évangile bien au-delà de son rayon d'action possible. Ce n'est pas lui qui va aller ici ou là annoncer l'Évangile, mais on voit bien qu'il a un rôle unique et vital à jouer dans ce travail. J'en précise que les enseignants itinérants n'avaient rien accepté de la part des non-croyants. Eux-mêmes n'avaient pas de ressources. Ils sont totalement dépendants de personnes comme Gaius. En accueillant et en soutenant ses frères en mission, Gaius fait ce qu'eux-mêmes n'auraient pas pu faire, et en plus ce qui est nécessaire pour la poursuite de la mission. Jean lui-même le souligne au verset 8. « C'est donc notre devoir d'accueillir de tels hommes, ainsi nous collaborerons à ce qu'ils font pour la vérité. » Gaius remplit pleinement son rôle dans l'œuvre de Dieu en soutenant ceux qui proclament l'Évangile au loin. Il est un collaborateur actif. Aujourd'hui, tout le monde n'est pas missionnaire, mais tout le monde a un rôle à jouer dans la grande mission de Dieu, localement ou au loin. Troisième caractéristique de la santé spirituelle de Gaius, c'est le fait d'être saint, S-A-I-N. Alors cette idée se retrouve pas directement dans la description de Gaius, mais plutôt dans les encouragements que Jean prodigue à Gaius. On l'a vu, Gaius était probablement un responsable d'église, et l'apôtre appelle Gaius à un leadership saint. Il l'appelle à développer des relations saines avec les autres. Alors on pourrait définir quelque chose qui est saint ainsi. On pourrait dire que c'est quelque chose dans lequel il n'y a rien de malade, rien de compromis, rien de pourri à l'intérieur. Tout est bon, tout est intègre. Alors pour formuler son appel à Gaius, Jean va donner un contre-exemple au verset 9 à 11. Jean dénonce les motivations et l'attitude d'un membre de l'Église, Diotrèphe. Diotrèphe est tout d'abord animé par de mauvaises motivations. Il veut être le chef. Son objectif, c'est sa promotion personnelle, servir ses intérêts. Et on peut dire qu'il n'est pas saint. À la base, il y a quelque chose de malsain, il y a quelque chose de vicié. Et ça se répercute dans l'attitude de Diotrèphe. Il agit avec autoritarisme, il méprise l'autorité de l'apôtre Jean et répand même des propos méchants contre lui. Lui-même n'accueille pas les enseignants en besoin d'hospitalité, mais il empêche ceux qui voudraient les recevoir. Il va même jusqu'à les excommunier. Et on voit les proportions que ça prend. Au final, l'attitude de Diotrèphe s'oppose à la proclamation de l'Évangile. Il s'oppose à l'œuvre de Dieu. Et Jean récapitule au verset 11, « Celui qui fait le bien est de Dieu, celui qui commet le mal ne sait rien de Dieu. » En filigrane, Jean présente un modèle de leadership saint. On le voit au verset 4, ce qui motive l'apôtre Jean, eh bien, c'est que ses enfants spirituels vivent selon la vérité. En conséquent, la bonne santé spirituelle de Gaius le remplit de joie. Dans ses rapports avec les autres, Jean est aux antipodes de l'autoritarisme de Diotrèphe. Au verset 12, on voit que Jean valorise l'attitude juste de Gaius et de Démétrius, ainsi que le travail des enseignants itinérants. Jean va même se ranger du côté de Gaius. Il dit « c'est notre devoir d'accueillir de tels hommes ». Autrement dit, Jean se voit avec Gaius comme un serviteur de ces enseignants itinérants qui ont un ministère si important. S'il y a quelqu'un qui a de l'autorité dans l'Église à l'époque, c'est bien l'ancien, c'est bien Jean lui-même. Mais Jean utilise son autorité, pas pour écraser les autres, comme Diotrèphe le fait, mais pour donner un bon témoignage des autres. Au sujet de Démétrius, Jean écrit au verset 12, « Nous lui rendons aussi un témoignage positif, et tu sais que notre témoignage est vrai. » Autrement dit, Jean appuie son témoignage de son autorité de témoin authentique. Jean présente donc un modèle de leadership sain, qui commence avec des motivations saines et qui relève de la bonne santé spirituelle. Équilibré, actif, sain, voilà trois caractéristiques de Gaius, un chrétien en bonne santé spirituelle. Alors juste quelques remarques sur les exemples que Gaius, Jean et Diotrephe nous donnent. Tout d'abord, on voit que la bonne santé spirituelle n'est pas une option. Les enjeux sont importants. Dans le cas de Gaius, sa fidélité, dans les petites choses on pourrait dire, a un impact bien au-delà de son rayon d'action. Il a pu collaborer avec ceux qui annonçaient l'évangile au loin, dans d'autres villes, dans d'autres régions où lui-même n'aurait pas pu aller. Dans le cas contraire de Diotrephe, son attitude malsaine l'a conduit à s'opposer à la progression de l'évangile. On ne peut pas dire que c'était un problème restreint, au fond, ce n'était pas si grave. Non, ça avait des conséquences néfastes significatives. Des chrétiens en mauvaise santé spirituelle courent le risque de choisir les mauvaises batailles, et la grande énergie qu'ils déploient peut avoir des effets contre-productifs dans l'Église, comme Diotrephe, qui déployait son énergie à chasser les frères qui exerçaient l'hospitalité. Deuxièmement, avec l'exemple de Gaius, on voit ici que la bonne santé spirituelle n'est pas réservée à une certaine catégorie de chrétiens, peut-être des chrétiens qui ont un ministère particulier, particulièrement difficile, comme ces enseignants itinérants qui se dévouent à la mission au loin. Gaius est un chrétien normal, si on peut dire, mais il est un athlète spirituel. Il demeure attaché à la vérité et il la met en pratique. Il remplit pleinement le rôle que Dieu lui a confié dans son œuvre, chez lui, en exerçant le ministère vital auquel Dieu l'a appelé. Et s'il suit l'exemple de Jean, on peut dire qu'il a des relations saines avec les autres, parce qu'il est mu par le désir de voir l'Évangile progresser et de voir de plus en plus d'hommes et de femmes vivre selon la vérité. Alors, bonne année et bonne santé. Que nous puissions être toujours équilibrés, actifs et sains, physiquement et spirituellement, pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Amen. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons t'inviter encore aujourd'hui, encore en ce début d'année, à venir, à prendre plus de place encore dans nos vies. Nous voulons te demander la guérison et la restauration là où il y a la maladie et la souffrance. Nous voulons aussi te demander la force physique et la force spirituelle, la santé spirituelle, pour toujours mieux t'aimer et te servir. Seigneur, merci pour les bons projets que tu as pour nous. Merci pour tout don parfait, tout cadeau qui nous vient d'en haut. Seigneur, merci parce que le bonheur se trouve auprès de toi. Nous voulons le vivre, nous voulons le partager aussi. Amen.